VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia, la présentation de cette deuxième édition du Monde aujourd'hui. Ce mardi 22 août 2017 au sommaire. Boko Haram utilise de plus en plus d'enfants comme bombes humaines selon l'UNICEF qui dénonce la pratique. Au Niger, trois policiers condamnés à un an de prison pour avoir tabassé un étudiant en avril dernier. Enlèvement à Tripoli de l'ancien premier ministre libyen Ali Zaidan et le gouvernement afghan qui est satisfait de l'annonce du président Donald Trump de poursuivre l'engagement militaire américain dans ce pays. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'UNICEF dénonce l'utilisation par Boko Haram d'enfants, en majorité des filles, comme bombes humaines dans le nord-est du Nigeria. Le point avec Solange Nyamulisa.
Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants utilisés a été multiplié presque par 4 depuis le début de l'année par rapport à l'ensemble de 2016. 83 enfants ont été utilisés comme kamikazes, dont 55 filles âgées de moins de 15 ans. L'UNICEF a aussi compté 27 garçons, plus un bébé accroché au dos d'une fillette, ce qui est une atrocité d'après l'agence onusienne, qui considère que ces enfants sont avant tout des victimes et non pas des auteurs d'attentats. Boko Haram a parfois revendiqué la responsabilité des attaques contre la population civile. Plus d'un million de personnes ont quitté leur foyer dans le nord-est. L'insurrection islamiste depuis 2009 a fait près de 20 000 morts. En raison des violences, le nord-est du Nigeria est confronté au spectre de la faim, indique aussi l'UNICEF, avec plus de 400 000 enfants souffrant de malnutrition.
On reste au Nigeria avec cette information pour le moins insolite. Le président Muhammadu Buhari va devoir travailler de chez lui, non pas parce qu'il est trop malade, mais parce que des rongeurs ont endommagé ses bureaux pendant son absence de plus de 3 mois. Il était à Londres pour y être soigné. Les animaux s'en sont notamment pris aux meubles et au système de climatisation du bureau présidentiel à Abuja, selon le conseil média de M. Buhari. Les travaux de réfection ont été entamés. Au Niger, 3 policiers qui avaient tabassé un étudiant lors d'une manifestation en avril dernier ont été condamnés à 1 an de prison ferme et a payé une amende de 15 millions de francs CFA pour réparation et préjudice. Ils avaient été placés en garde à vue pour avoir fait subir à un manifestant un traitement contraire aux principes d'éthique et de déontologie qui gouvernent l'action de la police, a expliqué lors d'un point de presse Adélie Toro, le porte-parole de la police nationale. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et reprise par des télévisions privées avait montré des policiers en train de frapper violemment un manifestant l'obligeant à crier « Vive la police !». En Guinée, au moins 8 personnes sont mortes et de nombreux autres blessées ce mardi dans un éboulement d'une décharge dans la banlieue de Conakry. Des femmes et des enfants sont parmi les victimes. Des dizaines de blessés ont été évacués à l'hôpital et selon les médias guinéens, les recherches étaient toujours en cours cet après-midi. En Centrafrique, au moins 10 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines blessées dans un accident de la route survenu à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bangui. Il s'agit d'un camion affrété par le Programme alimentaire mondial qui transportait des vivres à destination de Bassongoa et Poua. Il y avait aussi plusieurs dizaines de personnes à bord à destination de ces localités. Le mois dernier, un accident de la route a fait au moins 77 morts et des dizaines de blessés entre Bambari et Ipi dans le centre-est du pays. Les Angolais votent demain pour des élections générales qui marqueront la fin du règne de 38 ans du président José Eduardo dos Santos, qui a décidé de ne pas se représenter au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Les MPLA devraient une nouvelle fois remporter le scrutin. Son candidat, l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, devrait, sauf surprise, succéder au président dos Santos. Faute de moyens financiers et d'un accès conséquent aux médias, les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et le CASACI, ne semblent pas en mesure de priver le MPLA de sa majorité absolue au Parlement. En Libye, l'ancien premier ministre Ali Zaidan a été enlevé et détenu depuis 9 jours par un groupe armé à Tripoli. Le point avec John Linden.
L'ex-premier ministre envisageait de tenir une conférence de presse le 13 août dans la capitale libyenne pour répondre aux accusations de ses détracteurs. Selon Karam Khaled, qui l'accompagnait, la visite de M. Sedan a été préparée en coordination avec Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union. Une fois à Tripoli, poursuit-il, un groupe armé a tenté une première fois d'enlever M. Sedan le 12 août, mais les gardes de l'hôtel se sont interposés. Ces hommes sont revenus le lendemain pour prendre Ali Zedan, qui serait détenu par la brigade des révolutionnaires de Tripoli, une milice loyale au groupement d'Union. Pour l'instant, le gouvernement qui contrôle Tripoli reste silencieux sur le dossier. M. Zedan a été chef du gouvernement libyen de novembre 2012 à mars 2014. Il avait quitté le pays dans la confusion juste après son limogeage par le Parlement, ses détracteurs l'accusant de détournement de fonds publics.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump peut-il, comme il l'affirme, régler le problème de l'Afghanistan ? Hier, en tout cas, il a révélé sa stratégie et n'envisage pas de retrait de troupes, mais plutôt va envoyer du renfort et Kabadou.
Mon instinct initial était de se retirer, mais les décisions sont très différentes lorsque vous êtes dans le bureau ovale. Parole du président américain hier soir à Fort Myer, non loin de Washington. Donald Trump a ouvertement reconnu qu'il faisait une volte-face. Il a exclu tout retrait des États-Unis d'Afghanistan et même souhaite l'envoi de soldats supplémentaires. Il accentue même la pression sur le Pakistan, accusé d'être un repère pour les terroristes. Il a répété qu'un retrait précipité d'Afghanistan créerait un vide qui profiterait à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. Un responsable américain a souligné que M. Trump a donné son feu vert au Pentagone pour le déploiement de 3 900 soldats supplémentaires. Si la hausse n'est pas spectaculaire, elle marque cependant une inversion de tendance. Quelques 8 400 soldats américains sont en Afghanistan au sein d'une force internationale qui compte au total 13 500 hommes et qui sert essentiellement à conseiller les forces de défense afghanes.
Et justement, la Chine a pris la défense du Pakistan face aux critiques du président américain Donald Trump, qui a sommé Islamabad de cesser d'abriter des criminels et des terroristes. Lors d'un discours sur sa stratégie pour l'Afghanistan, M. Trump s'en est pris au Pakistan voisin, qu'il a accusé d'être souvent un refuge pour les agents du chaos, de la violence et de la terreur. Mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a réfuté les critiques du président américain, affirmant que le Pakistan a fait de grands sacrifices et a apporté de grandes contributions à la lutte contre le terrorisme. Washington a annoncé des sanctions à l'encontre de 10 organisations et 6 individus chinois et russes, les accusant de contribuer au développement du programme nucléaire de la Corée du Nord. Le département du Trésor continuera d'accroître sa pression sur la Corée du Nord en visant ceux qui soutiennent le développement des programmes nucléaires et balistiques et en les isolant du système financier américain, a prévenu le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, cité dans un communiqué. Coup dur pour la compagnie Johnson & Johnson, qui a été condamnée par un tribunal de Los Angeles, ici aux États-Unis, à verser la bagatelle de 417 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'un procès lié à un talc pour bébé accusé d'être cancérigène. Les détails avec Salwa Jafari.
Eva Echeverria en larmes devant un jury qui lui a finalement donné raison. Le géant pharmaceutique américain devra verser 70 millions de dollars en dommages compensatoires et 347 millions en dommages punitifs. Echeverria, à 63 ans, soutient que l'utilisation du talc pour sa toilette intime a provoqué un cancer des ovaires. Le jury a estimé que la compagnie n'a pas informé cette femme des risques liés au talc. C'est la plus importante indemnisation à une plaignante qui affirme que le talc pour bébé est cancérigène. Le groupe a décidé de faire appel. Hormis cette affaire, Johnson & Johnson fait l'objet de quelques 1200 procès rien qu'aux États-Unis. Les plaignants accusent le groupe d'avoir dissimulé le potentiel cancérigène du produit. La compagnie qui commercialise ses produits en Afrique notamment fait face à quelques 4800 procès et le groupe pharmaceutique a été reconnu jusqu'ici coupable à 5 occasions mais a gagné un procès en mars dernier.
L'un des 4 suspects encore en vie des attentats en Catalogne, Mohamed Ouli Chelma, a admis devant un juge que la cellule préparait un attentat de plus grande envergure. Les quatre hommes présentés ce mardi à un juge en charge de l'enquête sur les attentats qui ont fait 15 morts en Catalogne ont été inculpés d'assassinats de nature terroriste. Des groupes de l'opposition syrienne réunis en Arabie Saoudite n'ont pas pu trouver d'accord sur une stratégie de négociation face au régime. Ces groupes n'ont pas pu s'entendre sur le sort du président Bachar el-Assad. Le comité de négociation appuyé par l'Arabie Saoudite a débuté hier des discussions avec les deux délégations. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
Abidjan accueille cette semaine un atelier de formation sur le commerce international des services, une initiative de la CDAO et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Pour les organisateurs, les services peuvent aider à combattre la pauvreté sur le continent africain. Ils comprennent l'approvisionnement en eau potable, l'énergie, l'éducation, le transport et les télécommunications. L'atelier a pour but d'aider à améliorer les politiques publiques en matière de commerce international des services. Le Niger a décroché le prix international de la politique d'avenir octroyé par le World Future Council. Le prix est décerné aux meilleures politiques pour améliorer les conditions de vie des populations et des générations futures. Le Niger a été récompensé pour son initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette politique vise à vaincre la faim d'ici 2021. Pour le World Future Council, le pays a vu une augmentation de la culture irriguée et la récupération de vastes parties des terres arables. En Libye, la production de pétrole est de nouveau suspendue sur le champ d'Al-Sharara quelques heures après sa réouverture ce mardi. Des protestataires ont encore une fois fermé le léoduc qui conduit le pétrole jusqu'au port et à la raffinerie de Zawiya. Aucun groupe n'a revendiqué pour l'heure ce nouveau blocage. Al-Sharara produit plus de 200 000 barils par jour. La production est régulièrement perturbée par des conflits armés ou des revendications sociales.
Sport à présent avec vous, Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la querelle entre Neymar et le FC Barcelone qui n'est pas close.
Le FC Barcelone a déposé plainte contre Neymar. Le Barça évoque un non-respect de contrat et réclame la restitution d'une partie d'une prime touchée par l'attaquant brésilien. On le rappelle, il a été transféré début août au Paris Saint-Germain. Le Barça réclame également 8,5 millions d'euros de dommages. C'est ce qu'annonce le club catalan ce mardi. Le club précise qu'il réclame au Paris Saint-Germain le versement de ces sommes si l'attaquant brésilien n'est pas en mesure de le faire. Affaire à suivre.
Barrage retour de la Ligue des Champions à suivre demain soir.
Avec une confortable avance de 5 buts grâce à sa large victoire à l'aller, le Celtic Glasgow se déplace au Kazakhstan chez le FC Astana. Et puis Maribor qui accueille l'Hapoel Beersheva, le club israélien qui l'avait emporté 2-1 à l'aller. Même avantage pour l'Olympiakos du Pirée qui se déplace chez Rijeka, le club croate. Et puis l'OGC Nice qui aura 2 de retard à remonter face à Naples. Enfin, le FC Séville qui accueille avec 1 d'avance l'Istanbul Başakşehir.
L'afro-basket dames se poursuit au Mali.
Après la journée de repos hier, les basketteuses ont repris le chemin des parquets à Bamako. Le Nigeria et le Sénégal ont le sourire après leur victoire ce mardi, comme nous l'explique Ahmed Insi sur place pour VOA Afrique.
Le Sénégal poursuit sa marche victorieuse. Les Lions ont signé leur 4e victoire d'affilée en dominant l'Égypte sur le score de 93-61 grâce à une excellente Astou Traoré, meilleure réalisatrice de ce match avec 26 points. Elle a été bien épaulée par Ramata Dao, auteur d'un double-double, 17 points, 12 rebonds. Les filles de Tafagaï ont dominé cette rencontre de bout en bout en remportant tous les 4 ans. En seconde heure, le Nigeria a surclassé la Guinée sur le score de 106-33. Comme les Sénégalaises, les protégés de Sam Vincent balayent tout sur leur passage. D'ailleurs, le Nigeria, qui totalise 4 succès de rang, occupe la première place de la poule B devant le Sénégal. Ces deux formations se retrouvent demain au Palais des Sports Salimata Maïka de Bamako.
Voilà, c'était Andinsi depuis Bamako pour l'Afrobasket qui se joue actuellement au Mali.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Au Nigeria, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence d'enfants kamikazes, pour la plupart. Il s'agit de filles. Leur nombre a quadruplé par rapport à l'année dernière. Ces enfants sont utilisés par Boko Haram dans le nord-est du pays, marqué par le déplacement très fort de la population, où 450 000 enfants souffrent de la malnutrition. Et pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Genève le porte-parole de l'UNICEF, Christophe Boulirak.
C'est une pratique épouvantable, qui relève vraiment d'un niveau extrême de l'atrocité, qui consiste à utiliser les enfants, particulièrement les filles, pour procéder à des explosions, donc utiliser des enfants pour leur fixer des bombes sur eux dans des endroits souvent peuplés, pour tuer non seulement évidemment ces enfants, mais également les personnes dans ces endroits.
D'où viennent ces enfants avant d'être enrôlés?
Ils proviennent souvent des groupes armés qui utilisent cette pratique atroce. Et au nord-est du Nigeria, c'est Boko Haram. Ces enfants sont avant tout des victimes. Ils ont été souvent recrutés de force, ils ont subi et enduré beaucoup de souffrances. Ils sont donc utilisés comme bombes humaines, ce qui a pour effet de compliquer leur réinsertion, en tout cas la réintégration, le retour à la vie civile des enfants qui ont réussi à quitter ou à s'évader de ce groupe Boko Haram, puisque l'utilisation des enfants crée de la suspicion, crée du rejet. Ceux qui réussissent à sortir des groupes armés ont d'autant plus de difficultés à se réintégrer dans la vie civile parce qu'ils sont soumis à des mécanismes de rejet, de stigmatisation, de peur.
Vous dites qu'ils sont victimes de stigmatisation, mais ils sont aussi auteurs de ces attaques.
C'est toujours difficile de dire qu'ils sont auteurs de ces attaques parce qu'ils sont manipulés, ils sont forcés, ils sont parfois drogués. Oui, vous avez raison, la population s'en méfie. Le retour à la vie civile de jeunes qui ont été dans des groupes armés est toujours compliqué psychologiquement, émotionnellement. Et il est clair que ce genre de pratique épouvantable qui est en pleine augmentation complique d'autant plus ce retour à la vie civile, de par la stigmatisation, de par le rejet additionnel que ces enfants qui souhaitent revenir à la vie civile inspirent aux communautés. Il y a beaucoup de travail à faire, travailler avec les communautés et faire en sorte que les personnes et les agents qui ont de l'influence dans ces communautés du nord-est du Nigeria arrivent à persuader les communautés, les familles, les villages à donner de la place et à accueillir ces enfants. Il faut aussi évidemment que ces enfants, une fois qu'un climat de réconciliation a pu être renoué, bénéficient aussi de soutien économique. Jusqu'à présent, nous avons pu aider 3000 enfants et 1200 familles dans cette région du nord-est du Nigeria, justement avec ce travail communautaire de promotion de la réconciliation, de l'acceptation, de la tolérance par rapport au retour de ces enfants.
C'était le porte-parole de l'UNICEF, Christophe Boulirak. Depuis 11 ans, les Togolais sont dans l'attente de leur constitution dans sa mouture initiale. Pour y arriver, le 20 août 2006, un accord a été signé entre le pouvoir, les principaux partis politiques et la société civile. Mais les réformes n'ont toujours pas été opérées jusqu'à ce jour. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les Togolais ont soif de réformes, soif de la limitation du mandat présidentiel et d'un scrutin à deux tours. Une soif qui perdure depuis le 30 décembre 2002, date à laquelle la constitution togolaise votée par référendum en 1992 a été toilettée. Le 20 août 2006, l'accord politique global APJ a été signé, suscitant l'espoir des réformes avant la présidentielle de 2010. 11 ans après, toujours pas de réformes. Il ne faut pas se leurrer, le pouvoir de Lomé ne veut pas opérer les dites réformes, affirme Atiadam Tchikpi, président du Parti national panafricain, PNP.
C'est le refus évident de l'alternance. Ils veulent conserver le pouvoir à tout prix et éternellement. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas faire de les réformes. Du constitutionnalisme, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire un pouvoir limité dans le temps et dans les prérogatives. Ils n'en veulent pas. Ils sont réfractaires à cette idée. Il y a longtemps que moi je suis revenu de mes illusions. Dialoguer et signer, et puis après, bon, on vous tourne en bourrique.
Une accusation que réfute le parti au pouvoir. Union pour la République unie persiste ainsi ne pas être contre la réforme. Christophe Tchao, président du groupe parlementaire UNIR.
Personne n'est contre les réformes, ni le chef de l'État, ni le gouvernement, ni le groupe parlementaire UNIR, ni le parti UNIR lui-même. Notre souhait, c'est que tous ceux qui sont concernés par cette question puissent se mettre ensemble, discuter et aboutir à un consensus. Et ce qui se passe en ce moment avec la mise en place de cette commission qui est en train de faire un travail. On veut les réformes, mais nous souhaitons que ça se fasse dans un cadre consensuel. Parce que quelle que soit la formule adoptée, il faudra s'asseoir autour d'une table discuter pour aboutir à ces réformes.
Il ne faut pas seulement indexer Fogne Singbe et son régime. L'opposition leur a servi de béquille en participant aux élections sans les réformes, estime le professeur Togwata Pedoama.
Il ne fallait pas participer aux élections tant que les réformes n'ont pas été mises en route. Il ne faut pas cautionner la dictature en participant à des élections à tout prix. En réalité, c'est la mobilisation du peuple qui fera changer ce régime. Tant que le régime ne se sentira pas inquiété par une telle mobilisation, eh bien, les choses perdureront.
Sous l'ère de Fogne Singbe, les appels pour ces journées villes mortes n'ont pas connu de franc succès. Reste à savoir si avec cette nouvelle mobilisation, l'opposition togolaise aura gain de cause. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Le Maroc indigné, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes agresser sexuellement une fille dans un bus. Yacouba Ouedraogo a joint Mohamed Ziyane, avocat et ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme.
Il y a une vidéo d'une femme qui a été violée dans un autobus publiquement, collectivement, sous le regard d'une population totalement différente. Bon, au début, on a cru que c'était une scène de cinéma, parce que ce n'est pas possible toute cette indifférence de tout le monde. Le chauffeur aurait pu conduire son autobus au commissariat le plus proche possible, faire descendre tout le monde devant un poste de police après avoir enferlé tout l'autobus pour punir ces violeurs.
Justement, la scène a eu lieu en mai. Pourquoi c'est maintenant que l'intéressé le poste sur les réseaux sociaux?
Est-ce pour envenimer déjà une situation qui est très tendue à cause des contestations qu'il y a au nord du pays, des constatations totalement sociales et l'engagement du roi d'ouvrir des enquêtes concernant les investissements dans le nord du pays pour encore alimenter le feu?
Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées?
Oui, déjà il y a eu des personnes arrêtées. La police judiciaire a déjà commencé par arrêter, par interroger les chauffeurs de l'autocar, chercher, identifier la victime qui a filmé et pourquoi elle n'a pas dévoilé ça avant.
On peut se demander bien pourquoi la victime elle-même n'a pas posé plainte.
Elle a peur certainement que ce gars-là la connaissait et qu'il lui dise si jamais tu déposes plainte, mon frère ou la médecin ou les autres garçons du quartier vont t'égorger. C'est certainement qu'elle a été menacée. Et deuxièmement, moi j'en sais rien, quand elle a vu l'indifférence d'une population, si elle n'est pas devenue déréglé, ce n'est pas devenu folle.
Il y a eu des arrestations. À quoi faut-il s'attendre?
Moi, j'espère que le Maroc va réviser sa politique en ce qui concerne la peine de mort et qu'on va commencer à prononcer des peines de mort. Parce qu'en matière de crimes de cette nature, l'amitié internationale et son abolition de la peine capitale, il serait mieux de nous foutre la paix avec. Hein. Un violeur dans un lieu public et collectivement, c'est quelqu'un qui n'a respect ni de sa société, ni de la femme, ni du sexe, ni des citoyens. La vie est un droit. Le respect de la personne humaine est un droit, le respect de la femme est un droit, le respect de la vie sexuelle d'une femme est un droit, le viol est un crime, le viol collectif c'est un crime avec circonstances aggravantes, le viol collectif dans un lieu public c'est un crime avec deux circonstances aggravantes, et à un moment donné il faut dire arrêt.
C'était Mohamed Ziyane, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président américain Donald Trump a révélé hier soir sa stratégie pour l'Afghanistan. Donald Trump a ouvertement reconnu qu'il faisait en volte-face. Il a exclu tout retrait des États-Unis et même souhaite l'envoi de soldats supplémentaires. Est-ce que la prochaine nouvelle, Idriss Fall a rejoint à Paris Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS.
Non, je ne pense pas qu'il y a de nouveau. C'est vraiment très classique. Soutien au gouvernement afghan, envoie des renforts demandés par les militaires américains. C'est quelque chose que dans le passé a été fait à plusieurs reprises. Moi, je ne vois pas vraiment de nouveau. Hein. Et d'ailleurs, la proposition du président américain n'est pas du tout conforme à ce qu'il disait auparavant. Que ce soit pendant la campagne électorale, que ce soit après, où il préconisait le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. C'est vraiment la poursuite de la stratégie qui a été appliquée auparavant. Le président américain a suivi les recommandations de sénateur John McCain, plutôt, qui, après un voyage d'Afghanistan, il a dit que nous n'avons pas besoin une nouvelle stratégie, il faut aider le gouvernement afghan, envoyer un peu de renfort pour préparer la situation, pour négocier finalement avec les talibans.
Quand même, il accuse le Pakistan d'abriter des terroristes.
C'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, les Américains ont accusé le Pakistan de jouer un double jeu. C'est uniquement pour satisfaire le gouvernement afghan. Moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement fondamental de la politique américaine vis-à-vis du Pakistan, parce que le Pakistan aussi, il lutte contre les terroristes. Le Pakistan aussi est victime de terrorisme. Certes, le Pakistan soutient les talibans afghans, mais lutte contre les talibans pakistanais et contre l'Al-Qaïda. Les États-Unis n'ont pas de moyens de pression énormes sur le Pakistan.
La Russie est déjà passée par là. Les Anglais ne sont jamais arrivés à coloniser l'Afghanistan. Est-ce que les États-Unis, après 16 ans de présence en Afghanistan, la solution peut être militaire?
Les États-Unis sont passés également. Hein. Dans les années précédentes, les Américains avaient jusqu'à 150 000 soldats en Afghanistan. Ils n'ont pas obtenu de succès sur le plan militaire. Ils étaient obligés de mettre fin à la mission de l'OTAN et de retirer leurs soldats. Et maintenant, lorsqu'on n'a pas arrivé à obtenir un résultat avec 150 000 soldats, on ne peut pas obtenir avec l'envoi de 4 000 soldats supplémentaires qu'avec 8 000 déjà présents, ça fait 12 000. 10 fois moins de soldats américains qu'il y a 3 ans.
C'était Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, à la console Bill Barber, présentation Abdelrahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.